Chers amis, Hachem Alechem Tihyo, les horaires Yamin Tovim et Shanim Naimim. Nous poursuivons notre étude approfondie du fabuleux livre lumineux, ouvrage Zera Shimshon du maître illustre Rabbeinu Shimshon Haim Nahamani, que son mérite nous accompagne. Nous sommes Parashat Vayeshev au Darush numéro 4. Rabbi Hoshaya a dit, la Torah est comparée à trois boissons. À l'eau, au vin et au lait, comme cela est mentionné dans les psukim. Pourquoi donc Dafka ces trois boissons, ces trois liquides? Pour t'apprendre que de même que ces trois liquides ne se conservent parfaitement que dans des récipients ordinaires, et d'ailleurs les plus ordinaires possibles, comme l'argile, les cruches en argile ou les jarres, qui n'ont pas de grande valeur. De même, le récipient qui conserve la Torah est un récipient qui doit amener l'homme, qui est le récipient de la science, du savoir, à se comporter comme un homme ordinaire. Et il ne doit pas considérer qu'il a quelque valeur que ce soit. C'est l'humilité. Ça, c'est la leçon essentielle qu'on doit apprendre de l'eau, du vin et du lait. Dans le même sens, la Gemara poursuit et dit, la fille de César, en rencontrant Rabbi Yoshua ben Hanania, le fameux Tana, s'exclama et dit, oh, une telle science dans un récipient s'il est. C'est-à-dire que Rabbi Yoshua ben Hanania devait être pas beau à voir, il devait pas être beau, donc il devait être moche. Et elle s'est étonnée que Rabbi Yoshua ben Hanania, le savant, l'illustre savant, soit pas très beau. Alors il lui répondit, les serviteurs de ton père, n'est-ce pas qu'ils gardent le vin dans des cruches et des jarres en argile, qui sont des récipients ordinaires? Alors ils devraient, les princes qui sont riches, les gens de puissants, devraient garder et conserver les vins, les meilleurs crus, dans des récipients en or, en argent, etc. Alors sur ce conseil-là, elle suivit son conseil et elle ordonna de garder les vins dans des récipients en or et en argent. Et les conséquences de cela, c'est que le vin a tourné. Donc elle lui dit, c'est quoi ce conseil que tu m'as donné? Voilà que mon père était mécontent de cela. Et dit, toi-même, tu n'as pas dit que la science, le savoir devrait résider dans quelqu'un de beau. N'as-tu pas toi-même proposé que la science lumineuse de la Torah doive reposer dans un récipient splendide de beauté? Alors, elle lui objecte à ce moment-là, mais il y a bien des savants qui sont beaux, qui sont agréables à voir. Donc, il est fort possible que la beauté n'est pas un obstacle à l'érudition. Et Rabbi Yoshua de lui répondre, si ces érudits qui sont beaux avaient été laids, ils auraient été encore plus savants. Ça, c'est la Gemara dans Ta'anit à la page 7a. Rashi explique qu'il est pratiquement impossible pour celui qui est beau d'avoir une totale humilité. Il ne peut alors se forcer à revoir ses études autant de fois que cela s'impose. De sorte que il va lui arriver tôt ou tard à oublier ce qu'il a appris. En effet, si on ne révise pas et que on n'acquiert pas le savoir, donc on risque d'oublier. Et pourquoi on ne révise pas? Parce qu'on est persuadé qu'on a des capacités, donc on est un peu orgueilleux. Donc cela va entraîner, c'est de par la beauté, ça va entraîner donc l'homme à oublier son savoir. Rabotenu Baalei HaTosafot, les rabbins français du Moyen-Âge disent que le mot sanu, disent que si les hommes beaux, les érudits qui étaient beaux, avaient détesté, méprisé la beauté, et tous, donc ils ne vont pas s'adonner et rechercher cela, ils auraient été encore plus savants. Selon Rashi, qui explique que la beauté est un frein à l'excellence dans l'acquisition du savoir, la question se pose. Faisons la comparaison avec le vin. La question se pose, même que les récipients de valeur ne conservent pas le vin, donc il va se gâter, il va pourrir, il va tourner. Il devrait en être de même pour la beauté. C'est-à-dire que pourquoi on dit ils auraient été encore plus avant s'ils avaient été moches, s'ils n'avaient pas été beaux? Il fallait dire, la comparaison n'est pas identique, il fallait dire, ils n'auraient pas du tout été savants. Si ils sont beaux, ils ne sont pas du tout savants. Fort de cette question, le Rif sur le Hain Yaakov, il choisit d'interpréter la Gemara comme les Tosafot. Toutefois, on peut faire la remarque, en disant que cette interprétation est insuffisante, c'est pas juste. Parce que, il était suffisant de dire que les savants, bien qu'étant eux-mêmes beaux, mais du fait qu'ils ne se donnent pas ils ne donnent aucune importance à la beauté, cela leur permet de s'investir totalement dans l'étude. Ce qui aurait été alors une réponse suffisante à la deuxième question de la fille de César. La question du départ, restant telle qu'elle, la réponse étant insuffisante. En effet, la fille de César s'étonne qu'une si grande sagesse trouve sa place dans un corps si laid. Pourquoi donc cet illustre maître qui est Rabbi Yoshua ben Hanania n'a pas été créé et venu au monde avec la beauté? Pourquoi, se dit-elle, pourquoi il n'est pas beau? Il est bien évident que pour pas venir à un tel niveau de savoir, comme le niveau atteint par Rabbi Yoshua ben Hanania, il faut se consacrer uniquement au savoir et ne laisser aucune place pour tout ce qui est beau. Donc c'est-à-dire ne pas s'adonner à tout ce qui peut avoir un attrait quelconque dans les plaisirs de ce monde. C'est une perte de temps. Pour cela, il est préférable de dire que les Tosafot ne viennent pas contredire l'interprétation de Rashi, mais ils viennent ajouter à cette interprétation, ils viennent l'expliquer. Alors maintenant, regardons ce qui est dit au sujet, dans notre paracha, au sujet de Yosef. Il est dit à son sujet que Yosef était un jeune homme. À ce propos, Rashi rapporte qu'il agissait comme un jeune homme, en s'arrangeant les cheveux, en se parait, il essayait d'arranger ses yeux afin de paraître beau. Alors comment comprendre que Yosef s'adonne à ce genre de futilité qui sont réservées en fait aux gens qui sont superficiels? Il est dit après, mais Israël avait Yosef mikol banav. Yaakov préférait Yosef de tous ses enfants. Qui benzukunimulo. Car il était l'enfant de sa vieillesse. Et il lui fit une tunique à rayures. Va salok et non et passim. Qu'est-ce que ça veut dire, fils de sa vieillesse? Alors, Ankelos traduit, Bar Hakim, c'est le fils de la sagesse, c'est l'enfant le plus érudit, le plus chacham, le plus attaché au savoir et à la science. Alors, si on dit que Yosef est un sage, un savant, nous sommes bien obligés de dire qu'il prend ses distances avec tout ce qui est beau. Il va pas aller rechercher la beauté et essayer d'avoir des vêtements de beaux et avoir des parures, etc. Il préfère se consacrer. Tout cela n'a pas d'importance à ses yeux et il consacre son temps à l'étude. C'est pour cela, à ses yeux, tout cela n'a aucune espèce d'importance. C'est à cette condition. Et pour cela que son père le désigne comme le plus érudit de ses enfants. Comme celui qui se détache de la matérialité. Pour ne s'adonner qu'à la science, qu'à la chokhma. En effet, nous avons, comme nous l'avons vu plus haut, l'attrait des belles choses peut causer au plus grand des sages d'oublier son savoir. N'avons-nous pas dit que les meilleurs vins ne se conservent que dans les récipients les plus simples comme l'argile? S'il en est ainsi, nous sommes bien obligés d'expliquer que Yosef ne cherche à paraître beau que pour être mis à l'épreuve, afin d'amplifier son mérite. C'est ainsi que les sages du Midrash justifient la juxtaposition des versets. Il est dit, Yosef était de belle allure et de beau visage. Il est dit, voyez Yosef, il fait toi, il fait marrer. Et de suite, il est dit, Matissa, Echet Adonai Vetainer. De suite, il y a marqué que la maîtresse de maison, la femme du maître, a posé ses yeux sur lui. Et elle a, comme si qu'elle a posé son dévolu, elle le désirait, donc elle a essayé de le séduire. Le Midrash dit, pour expliquer cette juxtaposition. Joseph s'est dit, mon père a été éprouvé, il a été mis à l'épreuve. Mon grand-père aussi, il a été mis à l'épreuve. Et moi, ne devrais-je pas l'être aussi mis à l'épreuve? De sorte qu'en adoptant les pratiques des jeunes gens qui arrangent leurs apparences, Joseph n'a d'autre intention que le service divin. Il est confiant quant à sa capacité à surmonter les tentations et les séductions en tout genre. La Torah qu'il détient et son bouclier n'est-il pas qualifié de fille ben zirkonim? Il n'est pas qualifié d'enfant érudit? Alors comment est-il érudit? De par son humilité, sa modestie. C'est le garant de son savoir. Mais cela, malgré sa belle allure, la beauté de son visage, etc. Alors revenons au verset qui souligne la particularité de Yosef. Il est quelque peu étonnant qu'uniquement Yosef soit qualifié de Ben Zekonim, Bar Hakim, l'enfant érudit. Comme si tous les autres enfants de Yaakov ne méritaient pas ce qualificatif. Ils n'étaient pas eux-mêmes des savants, des chachamim. Et quand bien même on traduirait l'expression Ben Zirkonim, le fils de sa vieillesse, de manière littérale, c'est-à-dire que Yaakov l'a eu quand il était âgé, avancé en âge. Mais ça correspond plus à Binyamin, qui est le dernier enfant. Alors pourquoi Binyamin n'est pas qualifié de Ben Zirkonim? De plus, il est le préféré de son fils, de son père, comme il est dit. Veisrael Ahav et Yosef Mikol Banav. Il le distinguait, il l'aimait plus que les autres. Alors, il le distingue du reste de la fratrie, en lui faisant une tunique à rayures. Nous met en garde contre ce genre d'attitude. La Gemara dans Shabbat a dit, Ve'amar Rava bar Marcia, Amar Hama bar Gouria, Amar Le'olam Alishani Adam Beno Ben Abani. Jamais un homme ne doit faire de distinction et de préférence entre un enfant et les autres enfants. Chez Bishvil, Mishkal, chez Neslaim, il l'a. C'est parce que Yosef, Yaakov, il a donné une préférence et acheté un vêtement un peu plus cher à Yosef par rapport à ses frères, qu'ils vont avoir la jalousie. Nitkanu bo, et à cause de ça, nos ancêtres sont descendus en Égypte. Donc ça va causer la jalousie, la haine, le conflit. Ils vont le vendre en esclave et nos ancêtres, on va être obligés de descendre en Égypte. Comme si que si ça n'avait pas été le cas, donc on ne serait pas descendu en Égypte. Donc il va voir tout ce sur place que la Gezera sur la descente en Égypte avait déjà été fixée. Alors est-ce que c'est l'Égypte ou à un autre pays? Donc le Tosfot, il fait cette distinction-là. Al-Kolpanim, on revient à notre sujet. Donc, il fallait pas que Yaakov y fasse de préférence. Alors, comment l'a-t-il fait? Alors, revenons, pour répondre à cela, regardons le verset. Le verset dit, Elohim, Moshiv, Yehidim, Baita. Le Seigneur, il installe les solitaires, ceux qui sont Yehidim, dans une maison, dans un foyer. Motse, Asirim Bakosharot, il libère les prisonniers et il leur octroie ce qui est le meilleur. Aval, Ar, Sorarim, mais cependant les gens qui sont rebelles restent dans Charnou, Sehiha, ils restent dans des terres arides qui ne donnent pas des fruits. Que signifie ce verset? Alors ce verset, nos maîtres rapportent à plusieurs, dans plusieurs endroits, que ce verset fait allusion, fait référence à celui qui va parvenir à fonder un foyer. Comment il fonde son foyer? En choisissant une épouse qui lui convient. C'est-à-dire qu'il convient parfaitement. Sans autre intention que de construire un foyer à la gloire de Dieu. De faire en sorte que ses enfants ils soient dans le chemin de la Torah et des Mitzvot. Donc il ne porte pas son regard sur la richesse de la fille. Il ne porte pas son regard sur la beauté, c'est-à-dire que la richesse, la beauté et toutes les autres les éléments de séduction qui sont attrayants par rapport au bien-être matériel ne sont pas l'essentiel. Loin de cela. L'essentiel c'est la qualité de la personne que l'on cherche à épouser. Il ne porte pas son regard sur la beauté, ou sur la richesse, ou encore sur la renommée, si c'est une famille importante, etc. Mais uniquement sur les qualités de l'épouse. Alors nous disent Chachamim, c'est alors que les enfants qui naîtront de cette union seront de grands décisionnaires, ils seront des grands Moré Ora'a, ils seront des gens importants, des gens, des Bnei Torah qui enseignent la Torah et qui dirigent, qui savent trancher la halakha, des choses importantes. Il n'y a pas de plus grande preuve de la pureté de l'intention de l'homme qui a choisi son épouse. Alors on parle évidemment qu'il a choisi une épouse qui est très belle par exemple, ou qui est très riche, ou qui a d'une grande renommée. Alors est-ce que tu as ton intention, tu n'as vu que cela, ou bien tu as vu aussi, elle a aussi cette fille-là, cette femme-là, a aussi d'autres qualités, elle est vertueuse avec toutes les qualités, les midot tovot, la yirat shamayim qu'il faut. Mais toi, quand tu as regardé, est-ce que tu as regardé la Yirat Shamayim ou tu as regardé la richesse ou bien la beauté? Alors, s'il a regardé que la richesse, alors les enfants, ils risquent pas d'être, donc il s'est vicié au départ, donc il n'a pas une intention pure au départ. Alors, comment on va savoir si l'intention est pure ou pas? Alors, c'est si ces enfants, ils sont des Talmidei Chachamim qui sont Moré Ora'a. Comme le dit, ça c'est, il n'y a pas de plus grande preuve de la pureté de l'intention quand un homme choisit son épouse que la réussite spirituelle des enfants. Comme ça est dit Rabbi Yehuda Rosanes dans Parashat Drachim, au début de son livre. Alors regardons, quand Lavan dit à Yaakov se met au il arrive chez Lavan, il commence à travailler. Et Lavan lui dit, tu vas pas travailler gratuitement, voyons. Alors décidons, c'est quoi ton salaire? Alors, que lui répond Yaakov, il dit, je veux me marier, je vais travailler pour Rachel. Mais pourquoi il veut travailler pour Rachel? Parce que Rachel est marquée dans le passage qu'elle était très belle. Donc Yaakov, son intention, c'est de marier avec Rachel parce qu'elle est belle. Uniquement cela, a priori. De plus, après Lavan, il a trompé Yaakov. Il lui a placé Léa à la place. Donc, il se marie avec Léa contre son gré, bon... Il va l'aimer quand même et il va se marier avec elle, il va faire des enfants. Mais comment après qu'il a marié Léa, il peut prendre Rachel, voilà que c'est assourd. La Torah va interdire le fait de prendre deux sœurs. Alors donc Yaakov était prêt à transgresser la Torah pour se marier avec une femme qui est belle. Alors est-ce que cette accusation est fondée ou pas? Est-ce que on peut soupçonner cela de Yaakov? Si cette accusation est fondée, n'est-il pas un risque pour les enfants de cette union qu'ils ne soient pas dignes et respectables, qu'ils peuvent être pougoumim? Yaakov épouse Léa contre son gré, cependant il accepte et on voit que les 6 enfants qu'il va avoir, c'est des Gdolei Olam, comme Léa elle-même, en les nommant, elle qualifie chacun de sa qualité réou. Réouven, Réou, Ben Beni ou Ben Benhami. Il est dit, regardez la différence entre Réouven et ça, etc. Donc les qualités sont citées dans les noms que Léa va donner à ses enfants. Maintenant, est-ce qu'on peut en dire autant de Rachel, des enfants de Rachel? C'est beaucoup plus court à toutes ces insinuations que Yaakov avantage Yosef, comme nous allons le voir. Il lui donne la préférence. Il le désigne comme étant le fils érudit, le fils de la vieillesse, qui signifie que Yosef, il est Bar Hakim, il est l'enfant auquel Yaakov va transmettre tout son savoir. Toute la particularité de la Chochma qui est détenue chez Yaakov, elle va être donnée, conférée, transmise à Yosef. Bien sûr que Yaakov, il va enseigner toute la Torah à ses enfants. Il va les éduquer, il va les instruire, il va leur apprendre les différentes disciplines de la Chochma. Il va les forger à acquérir les qualités, les midot tovot, les qualités indispensables pour servir à Kadosh Baruch Hu. Toutefois, il porte une attention particulière à Yosef. Il est vigilant quant à son évolution, car s'il réussit l'éducation de ce fils, qui est le premier des enfants de Rachel, cela prouvera que son mariage avec Rachel n'était pas dû uniquement à la beauté, à la richesse, etc. Donc il n'a pas vu ça comme étant l'essentiel. Il s'est marié avec elle, les Shem Shamaim, Alpi Ruach HaKodesh, il s'est marié avec elle. De sorte que la réussite de Yosef, tant sur le plan matériel, et encore plus, encore plus sur le plan spirituel, sera pour Yaakov une marque d'honneur. Le fait que Yosef réussisse, ça pourra que lui, Yaakov, il n'est pas comme on aurait pu le penser ou insinuer qu'il s'est marié. Il n'a porté son regard que sur la beauté. Ce que Chachamim nous déconseille fortement. Alors, ça établira de manière certaine la vraie dimension de Yaakov. Et ça mettra un terme aux calomnies et aux indélicatesses. Il sera ainsi lavé de toutes les infamies. Donc c'est pour son propre honneur que Yaakov fait cette différence. Alors c'est comme ça qu'on doit comprendre la décision de Yaakov de réaliser pour Yosef une tunique particulière, kétonette passive. Cette kétonette passive, comme si que c'est quelque chose qui va que tout le monde va observer. Tout le monde va prendre conscience de la particularité de Yosef. Yosef, une tunique particulière, différente, singulière, visible, de loin, originale. Afin que tous s'interrogent, pourquoi cette distinction? En effet, le vêtement, nous disent Chachamim, c'est l'ornement qui honore celui qui le porte. Ici, la tunique de Yosef est l'honneur de Yaakov Avinu. Rabbi Yohanan disait de ses vêtements, Mechabeda, il les appelait, vous qui m'honorez, cette tunique à rayures que porte Yosef, ressemble au capuchon, au soudard particulier que portaient les Chachamim à l'époque de la Gemara, ceux qui détenaient les secrets de la connaissance du Soda Torah, comme il est dit, soudra, on explique le mot soudra, la Gemara dit Soda Hashem l'Iréav. La Gemara commente le terme, fait un jeu de mots sur le mot soudra qui signifie le chapeau, le capuchon avec quoi il se couvrait la tête. Ceux qui ont accès à la chokhma profonde, au sort de la Torah, à ceux à qui Akash Bokhu dévoile les secrets de son nom et de sa Torah. La Gemara dit ça dans Maseret Shabbat, à la page 77b. Cette explication originale que nous dévoile le Zera Shimshon nous permet de porter un regard nouveau sur la préférence, entre guillemets, que fait Yaakov et de ses intentions et de ses motivations réelles. Cela nous enseigne à ne pas nous contenter d'une lecture simpliste, superficielle des versets de la Torah, une compréhension superficielle des agissements des Avot HaKedoshim. Certainement que nous devons apprendre à percer le sens profond contenu dans le récit, qui en apparence semble évident. Il en va de même pour les enseignements des Chachamim dans la Gemara, dans le Midrashim, etc. En effet, quand nos maîtres disent jamais, les Olam Alishane, pourquoi ils ont dit les Olam? Pourquoi Ravi dit les Olam? Il aurait été suffisant de dire, il faut pas faire de distinction entre les enfants. Les Olam vient inclure quelque chose, vient ajouter quelque chose. Un homme ne doit jamais faire de préférence entre ses enfants. Nous avons questionné, donc posé la question, pourquoi il y a marqué les Olam? Alors les frères eux-mêmes n'ont pas compris le fond de l'intention de leur père quand il lui va lui confectionner une tenue singulière pour Yosef. Ce qui suscitera leur jalousie et entraînera le conflit et la descente en Égypte, comme on dit Chazal. C'est à ce sujet que le terme jamais fait référence. Même si cette préférence est justifiée par un intérêt primordial, tous ne sont pas à même de le comprendre. Ici, en l'occurrence, lui, Yaakov, il avait un intérêt de faire une ketonet passive pour Yosef, pour que lui-même, pour que l'honneur rejaillisse sur lui, qu'il soit lavé de tout soupçon. Et ça, tout le monde n'a pas été capable de le comprendre. Alors, on pourrait alors s'interroger, pourquoi Yaakov lui-même n'a pas expliqué son geste à ses enfants, au moins à ses enfants? Ce qui aurait apaisé leur ressentiment. Yosef lui-même, est-ce que lui, Yosef, il a compris le fond de l'affaire? Pourquoi son père, il lui fait une ketonet passive? Pourquoi cet avantage? Pourquoi est-il avantagé vis-à-vis des frères? On remarquera que les frères ne tiennent pas rigueur à leur père. Ils respectent trop, mais ils tiennent rigueur, ils en veulent à Yosef uniquement. Il n'est pas donné, alors, Pachout, il n'est pas donné à Yosef, à Yaakov, d'expliquer son geste et de se justifier, ni devant Yosef, ni devant ses frères, ni les enfants de Léa. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Il va leur dire, on m'a soupçonné que je me suis marié avec Rachel seulement parce qu'elle était belle, etc. Ça se fait pas, il peut pas. Donc il va agir pour laisser la compréhension se faire par ceux qui vont assister aux choses. Il est aussi étonnant que Yaakov n'ait pas envisagé que cette tunique pouvait engendrer la discorde, que le risque du conflit avec entre Yosef et les frères, il était presque évident, il était certain. Comment n'a-t-il pas apprécié la menace à sa juste valeur? N'a-t-il pas discerné le danger qui guette Yosef? Il le met en danger, les risques qu'il va lui faire prendre. Alors le pshat, il est que Yaakov, en fait, il est conscient de ça. Et il va essayer d'en prémunir et d'en préserver Yosef. Il sait que la jalousie rend aveugle et amène les hommes à commettre les pires dérives. La jalousie est la raison première du regard malveillant, agressif et méchant qui diffuse les énergies malfaisantes vis-à-vis des autres. C'est le Ayin Hara. C'est-à-dire, quand on regarde quelqu'un avec méchanceté, on envoie sur lui des énergies. Tout le mot mal, les ressentiments qu'on a, tous les mitzvot qu'on a, tous les dilemmes qu'on a, nous on les envoie sur la personne qui est observée. Alors et sur ça, Chachamim disent, donc même si 99% des gens, ils sont victimes de ce Ayin Hara. Si c'est ainsi, alors Yosef, il est en danger certain. Ah, mais Yaakov ne fait pas cela comme ça. Il le fait uniquement après qu'il se soit débarrassé de Esav. Alors, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que quand Yaakov a présenté sa famille devant Esav, alors il est dit que les enfants des Shvachot, que les Shvachot sont avancés avec leurs enfants. Donc, d'abord les Shvachot, Bilha et Zilpa et les enfants derrière. Après, il y a marqué que Léa a avancé avec ses enfants. Et après, il est dit que Yosef, il a avancé devant sa mère. D'abord Yosef, après sa mère. Rachir souligne, au nom de Chazal, que Yosef, il s'est mis devant sa mère de telle sorte que Esav, qui avait un œil puissant et qu'il avait un regard perçant pour voir qu'il n'observe pas la beauté de Rachel et qu'il ne lui cause pas de dommages. Il ne voulait pas que le regard de Esav, qui contient un venin terrible, puisse atteindre sa mère. Donc il a préservé, il s'est mis en bouclier devant sa mère. De par cet acte, quelle est la bracha que va obtenir Yosef? Il lui dit, ben porat Yosef, ben porat aleraim. Yosef, il est préservé de l'œil, du regard des autres. Il dit, comme le poisson qui est dans la mer, on peut pas le voir, donc il y a la bracha qui réside en lui, il peut pas être maîtrisé par le regard. C'est la bracha qui va obtenir. Donc Yosef, il est fort, il a un bouclier qui est sa bracha, de par son acte, le bouclier, il s'est placé en bouclier devant sa mère. De par cette force-là, il va pouvoir affronter le regard, la sin'a, la kin'a, et qui amène la jalousie, qui amène au regard malveillant. Ça, c'est la première précaution que prend Yaakov. Donc rien ne peut l'atteindre. Il y a aussi, il faut ajouter, qu'il y a une autre protection, Pshuta, qui est le Korah Torah. La Torah, c'est notre protection. Il faut ajouter à cela une autre protection. Yaakov, il appelle Yosef ben Zirkonim. Nous dit le Baal HaTorim. Qu'est-ce que ça veut dire Zirkonim? C'est l'acronyme. Ça veut dire les rachetés vol. Le mot Zirkonim qui est écrit Zayin Kuf Nun Yod. Et même, il est Nidrash. Il est, on le commande. Chaque lettre, un mot. Zayin, c'est Zraim. Kuf, c'est Kodashim. Nun, c'est Nashim. Le Yud, c'est Yeshuot. Et le même, c'est Moed. Donc, il y a ici cinq Masertot, cinq traités de Talmud. Zeraim, Kodashim, Nashim, Yeshuot. La Gemara, elle dit, dans Shabbat, la Medbet, que Yeshuot, c'est les Nezikim. Et Moed. Donc il y a ici cinq traités. Il lui a donné la Kohat Torah qui l'accompagne, qui ben zirkonim hulo. C'est zirkonim, il tient entre ses mains cinq éléments de la Torah, chaque élément étant une protection. La Torah étant des lumières. Alors c'est vrai qu'il manque le sixième. Lequel manque-t-il? Il manque Seder Taharot, la pureté, les lois concernant la pureté, qui est le sixième traité, qui correspond au Yesod, qui correspond au Bidouk à Yosef, qui Yosef est la Mida de Yesod. Et où est-il symbolisé celui-là? Dans la Ketonet Passim. La Gemara dit dans Hagiga que les gens qui agissaient avec sainteté, avec pureté, ils faisaient des makpidim, faisaient attention à la tahara. La tahara signifie la pureté, la brillance, la clarté, la limpidité. Donc il n'y a pas aucune touma. Ils avaient un vêtement spécial. Ils avaient un vêtement particulier. Ils mangeaient holin betahara, c'est-à-dire qu'ils mangeaient leur repas, leur quotidien, même après la destruction du temple, comme si ils mangeaient dans les korbanot dans le temple. Donc tout était, alors il fallait pas que n'importe qui les touche ou rentre en contact avec eux, parce que si quelqu'un il était impur, il peut lui dire bonjour, il peut le toucher, il peut le entamer. Donc il dit, ah, ce chacham là, c'est un homme saint, il fait très attention à la tahara. Donc ils avaient une tunique spécifique qui les distinguait, de sorte que les gens ne s'approchent pas, ceux qui étaient impurs, indisposés, etc., ne s'approchent pas d'eux. Donc ça, c'est le remèze, il est dans la Ketonet Passim elle-même. C'est le vêtement particulier des hommes saints. Donc c'est pour cela que Yosef, maintenant, il est fort de quoi? Il est fort des cinq traités de la Torah. Zraim, Kodashim, Nashim, Nézikim et Moen. Et en plus, il est fort de la tahara, la limpidité, la clarté, la pureté totale. La pureté, elle est tellement forte que la matérialité, elle est translucide. On peut la transpercer. Fort de ces éléments-là, de Torah Shebeh Alpe, la Torah orale. Alors, il peut être préservé. Rien ne peut lui arriver. Donc, il y a marqué dans les Svarim Akdoshim que Shav Maseret correspond à un flux sur un point spécifique procure une bracha particulière, une influence particulière. Par exemple, quand il y a des dangers, alors on étudie Maseret Souka et on est préservé, parce que Souka c'est la protection. On peut étudier aussi Maseret Yerubin, qui est aussi un concept de protection. Pour avoir la parnassa, alors on étudie Perek Asav, Namamsia, etc. Chaque Perek, chaque Maseret, elle octroie c'est des flux particuliers spécifiques et elle procure la réussite, etc. Donc on va constater que Yosef, il va être préservé malgré tous les pérégrinations qui vont lui arriver, tous les événements qui vont lui arriver, il sera toujours préservé, aussi bien d'un point de vue matériel que d'un point de vue spirituel. Et après, il va atteindre un sommet, les signes de la réussite totale, parfaite. Tout ça, à qui le doit? D'une part, parce qu'il a la bracha ben porat Yosef, ben porat aléaï, et deuxièmement, parce qu'il a en lui tous les six éléments de six traités, de ces shisha sidre mishnah, qui procurent à chacun, chacun selon la madriga de son étude, une protection, une réussite, une bracha infinie. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen. Cette étude est consacrée לילו נשמד רוחמה דזיקולט בנתנת, מרדכי בריזה, חלו עובדיה, גבריאל אליהו בר פנינה, בנימין יעקב עזור, את רות זיכרונם לחיי העולם, פור לרפואה של אמא, לרפואת הנפש ואת הגוף, לניסן צבי בר דבורה, יהושע יוסף בר אסתר, שרה רחל בת יהודית אסתר, יהודית השני מישל בת רחל, היה מושקה אסתר בת ציפורי זוסינה, עומי בת איבט, חיים בר סימי, אמרם בר יקוט, אליהו בר פריחה, דוד בר סעדה, טל זוהרי וביון בת נעמי, שמעון בר זוזיפין, חיים בר אסתר, סעדה בת מסודי, נטלי, שושנה בת ניקול, קולט ללה, אשר מסעוד במסודה, ראשי שלמה, בר יולה אליאן, התינוק, אליהו בר לבנה, שלום בר סימי, חיים בר שלומי, ברכה, בת חיה פיגל, זכות המחבר, le mérite du rab, le mérite de l'étude, leur apporte la santé et une longue vie. Anna, Enna, Fanalem, tous ceux qui sont en attente de recevoir, de sortir d'une situation, de trouver à fonder un foyer, d'avoir des enfants, d'avoir une meilleure parnassa, d'être sauvés de toutes sortes d'oppressions, Kadosh Baruch Hu leur octroie leur délivrance par le mérite du Rabbah. Amen et Amen.